petite squaw fragile. Anna Nina est raisonnable dans son chagrin. Elle ne s'accroche pas comme l'enfant de premier jour d'école à sa mère angoissée. « Je ne suis pas angoissée, je suis triste. » Et elle sait que la durée de l'étreinte ne changera ni ma peine, ni la décision de son père. Cette petite a la sagesse de peu d'adultes. Elle ne pleure plus vraiment ce matin, parce que les jolis chuchotements d'hier soir. Elle monte dans la roulotte, sans se retourner. La poupée en tissu que nous avons faite ensemble sous le bras. Eric se tient devant moi, le regard vers la ligne de crête des montagnes en face, pour regarder ailleurs que dans mes yeux sans lumière. Il finit par les affronter et pose sa main autour de mon cou. Fermement. Elle est chaude et puissante, comme nos étreintes. Puis il m'embrasse longuement le front. Pas la bouche, pas la joue. Le front. Cette zone neutre qui permet à chacun d'y ranger son interprétation du baiser. Je n'ai pas la force d'interpréter. Ils partent. Alors à quoi bon trouver un sens à ce baiser sur mon front? Ils partent. Croquette est assise à côté de nous. Elle balaye le sol en remuant la queue et gémit un aboiement plaintif. Elle a compris, elle aussi. Elle s'était attachée à la petite. Sur qui va-t-elle veiller la nuit maintenant? Le paillasson n'annoncera que du vide sur le parquet de l'étage. Les chevaux piaffent d'impatience de retrouver la besogne, des jours qu'ils n'avaient rien tiré. Pour des chevaux de trait, c'est comme un lion sans viande. Ils démarrent sans se faire prier quand Eric débloque le frein et donne une impulsion avec les rênes. La roulotte s'ébranle dans quelques cliquetis grinçants de rouages devenus muets depuis trop longtemps. Anna Nina s'est installée sur son lit à l'arrière et me fait signe à travers le petit hublot. C'est là que je lâche toute l'eau salée que je retenais depuis que j'avais compris qu'il partait. Elle grimace pour ne pas pleurer, et moi je ne peux plus rien maîtriser. Je vois cette petite fille s'éloigner sans savoir si je la reverrai un jour. Je me sens ridicule de ressentir un tel déchirement pour une enfant que je ne connais que depuis 3 semaines à peine. Mais le temps a-t-il une importance quand la rencontre est évidente? On peut savoir au bout de quelques minutes que la personne que l'on vient de croiser comptera dans notre vie. C'est le cas pour cette gamine. Je crois que j'ai su tout de suite, en l'enveloppant dans ma couverture pour que cessent ses frissons, qu'elle m'en provoquerait un bien plus intense qu'une forte fièvre. Je me prépare aux douloureuses courbatures que la séparation va engendrer. Je suis quand même soulagée qu'un tel véhicule roule si lentement, parce que cela prolonge ce moment où je vois encore Anna Nina me faire des grands signes de la main, et en même temps, je suis pressée qu'ils aient tourné au bout du chemin pour faire taire le cœur qui hurle d'envie de les retenir. J'épargne au tableau la course ridicule derrière la roulotte, comme l'amoureux transi sur le quai qui finit toujours par perdre face au train. Croquette le fait à ma place. Elle s'était lancée quand ils étaient à 20 mètres et puis s'est arrêtée, m'a regardée, hésitante, a couru à nouveau, avec moins de certitude, puis s'est retournée. Dans ses yeux, il y avait un « mais qu'est-ce qu'ils font ?»« Et toi, qu'est-ce que tu fais planter là ?» Et puis elle a trotté un long moment, jusqu'au bout du chemin, je crois, avant de revenir vers moi. Elle a perdu, face au train. Et moi, je me suis écroulée au sol. Elle me lèche le cou et essaye de me soulever le menton avec sa truffe, mais je suis recroquevillée comme une coquille. Je pleure à l'intérieur. Ils sont partis. C'est une poigne ferme qui me relève. Ça doit faire 1 heure que je suis là, en boule. Croquette a fini par se coucher à côté de moi. Je me retourne sans ouvrir les yeux pour me réfugier dans les bras qui m'ont saisi. C'est Gaël. Je reconnais son moelleux. Gustave n'a pas voulu venir sur le quai, trop dur. Il sera parti parler à ses radis et pleurer dans ses salades, et ne réapparaîtra peut-être que demain, quand il n'y aura plus trace de sa peine sur son visage. Je sais qu'il s'est, lui aussi, attaché à la petite. Et je crois bien à son père aussi, entre hommes. Et puis l'histoire d'Éric l'a touché, lui qui a connu l'attente et le renoncement. Je tiens tout juste sur mes jambes. D'avoir dû les couper pour qu'elles ne m'entraînent pas derrière la roulotte, en lançant à mon cerveau résistant des « bah qu'est-ce que tu fiches ?» comme le faisait le chien. Je fiche qu'il n'y a rien à fiche pour les retenir. Ils sont libres. J'ai dû m'y prendre comme un pied, même si on l'a pris ensemble. Et il n'aura pas eu envie de rester. Mais comment je pourrais faire maintenant pour qu'il veuille revenir? Tu ne crois pas que c'est le bon moment pour aller voir ta thérapeute en psychogénéalo ou machin? C'est ta sage-femme qui te tanne pour que tu consultes depuis un moment, non?
Si.
Toi qui attendais un événement pour le faire.
Ils sont partis, Gaëlle.
Je sais.
Ça fait mal.
Au cœur.
Et on se sent...
vide.
Tu crois qu'on guérit?
Toujours.
Tu guéris, toi?
Pas encore. Mais toujours ne signifie pas forcément tout de suite.
Comment tu as su qu'il fallait que tu viennes?
C'était écrit dans les nuages, petite co fragile. Avec la chaleur de juillet, tes larmes se sont évaporées et ont fait des petits moutons au-dessus de la montagne. J'ai tout de suite su qu'il y avait des gros sanglots à l'origine de tout ça. Ou alors que tu faisais des confitures. J'avais donc de toute façon une bonne raison de venir.
C'était des larmes.
Ça ne nous empêche pas de faire aussi de la confiture.
C'est le meilleur remède au chagrin.